Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous garantit de la bonne humeur chaque matin, même aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir la joie de vivre de mes consoeurs Eva Rock et Céline Dacosta.
Il y a le printemps qui chante.
Sinon, vous savez les filles, qu'on est le 1er mai, qu'on n'est pas payé double. Mais Céline, une réaction?
C'est la bonne news, hein?
Oui, oui, surtout.
Vous êtes sûr de ça?
Surtout quand vous allez apprendre que certains ont réussi à être payés triple, hein, comme Fabrice Dalméda. Le monsieur Histoire d'Europe 1 qui ce matin revient, 25 ans après, sur une mort en direct, celle du légendaire pilote de Formule 1, Ayrton Senna.
Merci d'écouter Europe 1 ce mercredi 1er mai. Et très bon réveil, il est 6h. Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 1er mai. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
1er mai, sous haute surveillance, plusieurs rassemblements et cortèges sont annoncés à travers tout le pays. Gilets jaunes et Black Bloc comptent bien en faire partie, dispositif sécuritaire d'une ampleur exceptionnelle. Dans l'actualité également, ce regain de tension au Venezuela, près de 70 blessés dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Et puis en football, nouvelle défaite pour le PSG, encore battu hier soir en Ligue 1 par Montpellier, 3-2. Toute l'actu sportive avec Jérôme Lacroix dans 10 minutes.
Europe 1.
Mathieu, vous l'avez peut-être constaté, si vous avez cherché du muguet ces derniers jours.
Mais j'en ai cherché pour vous.
Il n'y en a pas beaucoup.
Non.
Surtout dans le quart nord-est de la France, où il a fait assez froid et gris ces derniers temps, Arthur Mbaché a tout de même tenté de trouver de petits brins au sud de Strasbourg, en pleine nature. Savourez plutôt ce reportage.
Pas facile le muguet cette année. Pour être franc, nous allions lâcher l'affaire après une demi-heure à fureter dans ce coin de forêt censé être réputé pour son muguet au moment où sont apparus nos experts Richard, Jean-François, Elga et Martine.
Là, on n'en aura pas, c'est même pas la peine, mais il y a des endroits, oui, près des arbres. D'ailleurs, il n'est même pas dit que là-bas derrière, il n'y en a pas. Écoutez, regardez, il y a un brin là, vous voyez? Après, c'est une habitude, hein. Je vous dis, j'ai commencé à ramasser, j'avais 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 79, alors depuis le temps.
Et donc, cette année, vous disiez pas beaucoup de muguets, pas beaucoup de cueilleurs?
C'est vrai que là, j'ai l'impression, comme dit, qu'il y en a peut-être moins aussi cette année. Voilà, vous avez un petit bouquet de muguets.
Non, mais c'est gentil.
Mais attendez. Si, c'est bon, avec grand plaisir.
Ah bah, merci beaucoup.
Hein. Porte-bonheur surtout. Hein.
Je vais aller le vendre au prochain Carrefour. Avis aux cueilleurs qui ne veulent pas avoir d'ennuis ni payer 800 euros d'amende. Chaque personne n'a le droit de ramasser que ce qui tient dans la main. 10 à 15 tiges maximum. Sur le critère Matterfad dans la forêt d'Ilkirch-Grafenstaden, Arthur Mbaché, Europe 1.
Reportage savoureux, je vous l'avais dit.
J'irai moi aussi vous cueillir quelques tiges tout à l'heure.
Europe 1, 6h02.
Des milliers de policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui pour ce 1er mai, Céline.
Des cortèges de l'intersyndicale, pardon, partout dans le...
Pardon, enchaînons. Des milliers de policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui pour ce 1er mai, disais-je, Céline.
Oui, la crainte de violence l'année dernière, déjà on se souvient que cette journée... Pardon, avait été marqué par des affrontements. Toute la question est de savoir si les Black Blocs seront présents en masse. 1000 à 2000 sont redoutés par les autorités.
Plus qu'un raz-de-marée de manifestants, le gouvernement redoute un déferlement de violence des gilets jaunes, des militants radicaux qui s'ajouteraient aux traditionnels cortèges syndicaux. Emmanuel Macron suivra la journée depuis l'Élysée avec une seule consigne pour les policiers, répétée par la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, la fermeté.
Le président de la République a indiqué que de manière très ferme, il fallait à la fois permettre aux uns et aux autres, en cette fête très symbolique du travail, de manifester, de revendiquer, mais que pour pouvoir protéger ce droit à manifester, il fallait également qu'on soit extrêmement ferme sur tous ceux qui n'ont pour objectif uniquement que le désordre, la violence.
L'inquiétude au sommet de l'État, revoir les scènes de casse de l'an dernier, cette année de mêmes images pourrait fragiliser Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur qui a déjà dû faire face à plusieurs revers sécuritaires les samedis. Enfin, dans la majorité, on s'inquiète d'une nouvelle journée de violence qui risquerait d'éclipser l'effet dans l'opinion des récentes annonces d'Emmanuel Macron.
Adrien Beck pour Europe 1. Justement, la police s'est préparée, on vous le disait, près de 7500 hommes déployés rien qu'à Paris. Loïc Travers, secrétaire général adjoint de la section Île-de-France du syndicat Alliance, s'attend à des heurts avec les manifestants.
On peut redouter des affrontements massifs, puisque c'est ce qui s'était passé à l'occasion du 1er mai 2018, et plus récemment dans le cadre des manifestations dites gilets jaunes. La problématique, effectivement, d'aller au contact, c'est que ça peut générer des actions violentes de part et d'autre, bien évidemment, et des dommages collatéraux. Maintenant, il ne faut pas oublier que le principe de base du maintien de l'ordre à la française, c'est le maintien à distance. Maintien à distance avec les canons à eau, avec les lanceurs de balles de défense, avec les gaz lacrymogènes, notamment quand il y a une masse en face des policiers. Quand on parle, effectivement, d'actions dynamiques et coups de poing, bien évidemment, ce sont sur des petits groupes. Le principe, c'est pas d'aller à la confrontation quand vous avez 3000 personnes devant vous. Le principe même de l'intervention dynamique, c'est véritablement pour cibler des endroits où il y a des casseurs, des pilleurs qui sont en petits groupes, et avant que ce noyau grossisse et qu'un groupe de 10 personnes devienne 100, 300, 400 personnes qui pillent ou qui cassent, par exemple, un magasin.
Loïc Travers, interrogé par Alain Acco pour Europe 1 à Paris. Le départ du cortège est prévu à 14h30 depuis la gare Montparnasse jusqu'à la place d'Italie. Tous les commerçants ont été invités à fermer, à se barricader. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit recevoir des professionnels du métier de bouche et des fleuristes. Les abords du palais présidentiel seront évidemment étroitement surveillés. Un arrêté d'interdiction de manifester a été pris concernant les Champs-Élysées, mais aussi les quartiers du Sacré-Cœur, de Notre-Dame et de l'Assemblée. Dans l'actualité de ce mercredi, aux États-Unis, une fusillade dans une université à Charlotte, en Caroline du Nord, a fait 2 morts et 4 blessés. Les deux victimes sont des garçons de 17 et 18 ans. Le tireur interpellé est un étudiant en histoire âgé de 22 ans. Cette nuit au Venezuela, Juan Guaido a appelé à poursuivre les manifestations contre le président Maduro. Guaido qui bénéficie depuis hier soir du soutien d'une partie de l'armée. Hier, la journée a été marquée par des heurts où 69 personnes ont été blessées, dont 2 par balle.
Et puis Céline, direction Marseille, 6 mois après le drame de la rue d'Aubagne.
Oui, 2 immeubles s'étaient effondrés faisant 8 morts. Aujourd'hui, 650 personnes dorment toujours à l'hôtel car leur logement est concerné par un arrêté de péril imminent. Seulement voilà, les hôteliers aimeraient bien pouvoir récupérer leurs chambres pour la saison touristique qui approche. Nathalie Chevance.
À 2 pas de la rue d'Aubagne, Valérie, propriétaire d'un petit hôtel indépendant, a accueilli pendant plusieurs semaines jusqu'à 5 familles délogées à des tarifs préférentiels. Mais aujourd'hui, cette commerçante affirme qu'elle ne peut plus se le permettre économiquement. Elle n'a que 10 chambres et la haute saison touristique arrive à grands pas.
Moi, j'ai plus 5 chambres disponibles pendant 6 semaines, ça c'est sûr. Des tarifs qu'on pouvait appliquer en hiver, de l'ordre de 60-65 euros, on ne peut pas les appliquer en été. Quand on a des chambres qui se vendraient autour de 100 euros, c'est pas possible parce que c'est le moment où on fait notre saison, c'est pas une situation durable.
Ce que comprend parfaitement Myriam, délogée avec ses 3 enfants, elle a dû changer d'hôtel 2 fois en 3 mois. Et plus le temps passe, dit-elle, plus les relations avec les hôteliers se tendent.
Début avril, on a commencé à sentir que les hôteliers, ils voulaient pas d'évacuer parce qu'ils avaient besoin, c'est la saison estivale, il y a des congrès, il y a les touristes, maintenant ils ont besoin des chambres. On avait l'impression de gêner parce que les hôtels, ils sont pas faits pour accueillir des évacués. C'est à la mairie de s'occuper de nous, pas les hôteliers.
La mairie qui envisage donc d'activer un dispositif de centre d'hébergement d'urgence pour permettre aux hôteliers de récupérer certaines chambres pour la saison touristique. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
C'est une tendance qui ne cesse de s'amplifier. Les jeunes gays et lesbiennes ou les trans choisissent de plus en plus Internet pour révéler leur homosexualité.
Oui, c'est le sujet d'un documentaire qui sort aujourd'hui au cinéma. Ça s'appelle Coming Out. C'est réalisé par Denis Parot. Le phénomène vient tout droit des États-Unis. Ève Roger.
Il y a d'abord le coming out seul devant son ordinateur via une vidéo ou un texte posté sur Facebook, par exemple. C'est ce qu'a fait Ethan, 13 ans à l'époque. Il a préféré le révéler d'abord à ses amis sur Internet plutôt qu'à sa famille, comme une sorte de répétition.
Parce que moi, sur Facebook, j'avais bloqué ma mère, mon père, tout ça, j'osais pas trop le dire. Et après, sur les réseaux sociaux, j'ai dit clairement, je suis homosexuel, que ça plaise ou pas, je vis ma vie. Mais après, il faut savoir que j'ai reçu beaucoup d'insultes aussi. Voilà, on s'est insulté, pédé, tout ça, bon. C'est blessant, c'est normal, hein. Mais franchement, quand je l'ai sorti, je me sentais mieux. Parce que c'est pas tous les jours où on fait un coming out, quoi.
Et puis, plus surprenant, il y a ceux qui convoquent carrément leurs parents devant l'écran de leur portable pour faire leur annonce en direct. Denis Parot, l'auteur du documentaire Coming Out, a visionné des milliers de ces vidéos venues du monde entier.
Je pense qu'il y a peut-être quelque chose un petit peu de malin de la part de ces jeunes de faire ça comme ça. Peut-être qu'ils se protègent, la vidéo sert de bouclier, en disant à leurs parents, attention, vous êtes filmés, ne dites pas n'importe quoi. Je pense que le fait de se filmer, c'est aussi de garder une trace. Vu qu'il y a beaucoup d'émotions pour eux, ils veulent se souvenir de ce que leurs parents ont dit, presque de travail, voilà, d'archives.
Et ce qu'il a constaté, c'est que le plus souvent, les parents réagissent avec bienveillance. Beaucoup disent même, On le savait déjà.
Ève Roger pour Europe 1. Anémone est décédée hier à l'âge de 68 ans. L'actrice avait mis un terme à sa carrière il y a moins de 2 ans. Évidemment, on se souvient de son rôle dans Le Père Noël est une ordure. Elle avait aussi reçu le César de la meilleure actrice pour Le Grand Chemin en 1988.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Et Céline, comme c'est férié aujourd'hui et qu'on va quand même pas se fatiguer à trouver de nouveaux sons, j'aimerais qu'on revienne là où entre nous tout a commencé.
Le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments.
Oui, le Nakumba de la zone industrielle de Frangy. Et notamment cette soirée karaoké spéciale Clo-Clo, où j'ai su que tu serais mienne, car il n'y avait que 2 options. Soit tu étais très amoureuse, soit tu étais sourde.
Vol sur les filles, barque sur le Nil.
Ah, Alexandra.
Ah, tu chantes bien.
Comme quoi l'amour ne rend pas qu'aveugle, il rend aussi sourd.
Europe 1. 5h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique. Le fact-checking par l'histoire, c'était il y a 25 ans, une sortie de piste filmée en direct et retransmise dans le monde entier. Ayrton Senna a trouvé la mort sur le circuit d'Imola. Fabrice Dalméda revient sur cette légende du sport automobile.
Bon réveil à tous, il est 6h10. Il est 6h11, Mathieu Noël.
Faisons un point sur la météo du jour avec vous, Céline Dacosta. Les nuages seront encore bien présents aujourd'hui.
Oui, surtout sur la moitié nord et le centre-est pour ce matin, avec des brouillards qui sont fréquents. Pour les autres, le soleil va briller, la moitié sud. Donc dans l'après-midi, ce sera un soleil souvent voilé avec un risque d'ondées sur la moitié ouest à cause d'une perturbation qui arrive par la Bretagne et qui s'étendra jusqu'au Poitou-Charentes, où là on aura quelques gouttes. Un coup de tonnerre peut-être même dans la soirée, risque orageux qu'on va retrouver également sur la Corse. Le tout sous des températures encore douces l'après-midi, avec une moyenne de 15 à 23 degrés du nord au sud. Attention, ce matin, c'est encore bien frais.
Merci Céline. Et Varoc.
Eh bien, ce 1er mai, nous vous demandons depuis 5 heures ce matin, quel est le métier dont vous rêviez quand vous étiez enfant? Et bien, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, vous êtes nombreux à nous répondre, comme Isabelle qui nous dit « J'aurais aimé être chanteuse lyrique ». Patricia, elle a trouvé la bonne profession, testeuse de matelas. Je trouve ça très, très bien comme profession. Et Suzy, elle nous dit « À 4 ans, je disais à ma mère que je voulais être infirmière. Le mois suivant, je voulais être maîtresse. Des décennies plus tard, je suis toujours cadre infirmière et experte en formation. Petit message à l'attention de Mathieu, cessez de couper la parole à Eva. »
Bim, merci beaucoup,
vous continuez à réagir. Je vous laisse toujours dérouler tous vos arguments.
Particulièrement ce matin.
Particulièrement aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il est temps d'accueillir Jérôme Lacroix pour le Journal des Sports. Je ne vends pas la mèche, c'est son scoop, mais je suis d'ores et déjà en mesure de vous révéler que Jérôme a décroché une interview exclusive de Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, qui, visiblement, malgré les déboires de son club, reste confiant.
Ça n'est pas en se déprimant que l'on résout les problèmes. Il faut être optimiste.
Voici le Journal des Sports, et toujours optimiste, Jérôme Lacroix. À la une, le souvenir, Jérôme, d'un 1er mai qui a marqué l'histoire du sport.
Oui, nous avons du mal à trouver les mots pour vous raconter ce qui s'est passé au moment où l'hélicoptère qui a pris position sur la piste est en train de décoller et donc d'évacuer Ayrton Senna en direction de l'hôpital de Bologne. Nous pensons que l'état de santé du pilote brésilien est grave.
La voix de Dominique Bressot sur Europe 1 ce 1er mai 1994, sous ses yeux, Grand Prix de Saint-Marin, circuit d'Imola, la Formule 1 d'Ayrton Senna heurte à plus de 200 km à l'heure un mur de protection en béton dans le virage maudit de Tamburello. Le pilote brésilien décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. 25 ans après, le Brésil pleure toujours. Celui qui était bien au-delà d'une figure sportive, des célébrations sont prévues aujourd'hui. Popularité singulière parce que Senna, il avait rendu aux Brésiliens la fierté d'être brésilien. Pays qui avait longtemps rimé avec dictature militaire. Un quart de siècle plus tard, notre journaliste Dominique Bressot se souvient.
Il était unique d'abord parce qu'il était brésilien, patriote, qu'il défendait sans cesse les couleurs de son pays et qu'il était donc adulé par tout le peuple du Brésil, d'autant plus que Senna était aussi croyant et très religieux. Dans ses tours d'anthologie qu'il a réalisés sur la piste, il lui est arrivé de dire « J'ai vu Dieu » pendant que je conduisais, et il m'a donné la force de vaincre. Et Alain Prost, d'ailleurs, n'hésitez pas à dire que comme Senna se sentait protégé par Dieu, il pouvait être dangereux sur la piste.
Des propos recueillis par Christophe Lamar.
Ayrton Senna et notamment la rivalité avec Alain Prost, on y revient dans quelques instants dans cet historique avec Fabrice Dalméda.
Le colosse s'érode, 4e défaite en 5 matchs pour le PSG hier soir, 3-2 à Montpellier en Ligue 1. Paris est plombé notamment par Presnel et Kimpembe, le bleu champion du monde, auteur comme samedi en Coupe de France d'un nouveau but contre son camp. Le Brésilien et capitaine Marquinhos sonne le réveil.
Même si on est déjà champion, on ne peut pas laisser le temps passer parce qu'on a 4 matchs et on ne peut pas faire 4 matchs mais on ne peut pas faire 4 matchs de merde. Il faut savoir gérer la pression dans les moments comme ça.
Et les Montpelliérains, eux, sont ce matin 5e du classement.
Ah, tiens, ça, c'est pas les supporters du PSG, ça. Ces supporters-là n'en finissent plus d'être aux
Ce
anges.
Ce sont les fans néerlandais de l'Ajax Amsterdam qui acclament leur tant jeune que talentueux joueur hier soir après la victoire 1-0 à Londres face au Tottenham. Hugo Lloris en demi-finale aller de Ligue des Champions, option prise pour la finale. Match retour mercredi prochain à Amsterdam. Ce soir, seconde demi-finale aller Barcelone-Liverpool.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
C'est l'histoire de Caster Semenya, athlète sud-africaine. Elle a 28 ans, c'est une championne. Mais selon la Fédération internationale d'athlétisme, eh bien, elle produit naturellement trop de testostérone, ce qui lui donnerait un avantage. Un nouveau règlement oblige ces femmes dites hyperandrogènes à faire baisser via des médicaments leur taux de testostérone afin d'être autorisées à prendre part aux compétitions. Inacceptable pour Caster Semenya qui a saisi le tribunal arbitral du sport. Verdict attendu aujourd'hui.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et tout de suite, avec le monsieur histoire d'Europe 1, Fabrice Dalméda, nous revenons 25 ans après, on en parlait, sur l'accident tragique de cette légende de la Formule 1, Ayrton Senna. Que s'est-il passé dans ce foutu virage à Imola? Le Brésilien, devancé par Schumacher, se serait exclamé:
on a la bourse. On a la bourse totale.
La suite, on la connaît. Que reste-t-il du mythe 25 ans après, place à Dalméda?
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Exposition, fresque, statue pour le 25e anniversaire de sa disparition. Ayrton Senna est l'objet de multiples hommages. Quelle histoire se cache derrière cette émotion?
Ah, c'était le 1er mai 1994 sur le circuit d'Imola, en Italie. Malgré un mauvais pressentiment, Ayrton Senna, le pilote brésilien, s'était lancé au volant de sa Williams Renault. Parti en pole position, il est en tête et doit gagner ce Grand Prix pour espérer encore un titre mondial. Au sixième tour, sa F1 aborde une courbe à 220 km/h quand la colonne de direction cède, sa voiture fonce droit dans le décor. Elle percute à pleine vitesse la barrière de sécurité, c'est la mort en direct. Car depuis deux ans, TF1 et les grandes chaînes mondiales diffusent les Grands Prix. Des millions de personnes ont vu ces images, avec la tête de Senna immobile après le choc.
Senna avait un statut de star.
Oui, c'était vraiment une star. Il est le premier pilote brésilien de ce niveau, un champion rare. Né dans une famille fortunée de Sao Paulo en 1960, il avait commencé les courses encore enfant et en 1979 et 80, il avait été vice-champion du monde de karting. Après une année en Formule 3, il avait fait enfin ses débuts en Formule 1 en 1984. La star de l'époque, on s'en souvient, c'est Niki Lauda qui remporte son troisième titre et se retire précisément en 1984 en devançant d'un demi-point, l'autre roi de l'asphalte, le français Alain Prost.
Et entre Senna et Prost, la compétition sera sans merci.
Ah oui, les deux hommes signent un des grands feuilletons médiatiques avec leur rivalité au coude à coude à partir de 1988. On les caricature pour donner du sel à cette dangereuse aventure dont tous les grands médias rendent compte. Prost serait le professeur, le calculateur, toujours bien préparé. Senna, c'est l'impulsion, la vitesse, la prise de risque. En fait, ce sont deux pilotes ultra préparés qui ne cèdent rien sur la piste. Ils iront jusqu'à l'accrochage en 1989 au Grand Prix du Japon. Finalement, après son quatrième titre de champion du monde en 1993, Prost se retire réconcilié avec Senna. Le règne du Brésilien arrive mais au sommet de la gloire, il disparaît et devient une légende du sport. Ayrton Senna, trois fois champion du monde, un mythe aussi grand que Pelé au Brésil, sa terre natale, qui le célèbre aujourd'hui avec nous.
Merci Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités pour l'analyser. Aujourd'hui, en ce 1er mai, on parle travail. L'âge légal de la retraite doit-il être repoussé? Les 35 heures détricotées à l'heure du boom de l'auto-entrepreneuriat? Le syndicalisme a-t-il encore un avenir? Notre protection sociale à la française est-elle menacée? On posera toutes ces questions à Bertrand Martineau, économiste spécialiste du travail à l'Institut Montaigne et qui bosse un 1er mai.
Bon réveil à tous sur Europe 1, il est 6h19. Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Grosse journée de mobilisation en vue aujourd'hui 1er mai au traditionnel défilé syndicaux. Des manifestations de gilets jaunes sont prévues, tandis que les autorités redoutent une forte présence des Black Blocs. À Paris, de nombreuses stations de métro vont rester fermées. L'opposant vénézuélien Juan Guaido appelle à poursuivre les manifestations aujourd'hui contre le président Nicolas Maduro. Hier, la journée a été marquée par des violences entre forces de l'ordre et militants. Bilan, 69 blessés à Caracas. Enfin, la mort de l'actrice Anémone. Hier, à l'âge de 68 ans, elle a succombé à une longue maladie. Son rôle dans Le Père Noël est une ordure reste évidemment dans tous les esprits, mais c'est dans un rôle dramatique qu'Anémone avait remporté un César en 1988 dans Le Grand Chemin.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce mercredi 1er mai, et qui dit 1er mai dit travail, le sujet principal des annonces faites par Emmanuel Macron la semaine dernière, heures supplémentaires, retraite retardée, primes de fin d'année, pour au final travailler plus en espérant gagner plus. Ça nous rappelle quelque chose. Bonjour Bertrand Martineau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste des questions d'emploi et de travail. Alors déjà, vous bossez un 1er mai, vous?
Eh bien oui, vous voyez...
Pour nous,
oui, mais
le
travail, c'est la santé. et puis, le travail, c'est ce qui fait tourner l'économie. C'est la vraie force motrice de l'économie. De
Alors, façon. Quand Emmanuel Macron dit qu'il faut travailler plus, ça veut dire quoi? On n'est pas particulièrement des feignasses en France. Les études montrent apparemment qu'on a une des meilleures productivités horaires.
Alors, on a une très forte productivité horaire. Maintenant, il faut distinguer deux choses. Il y a les gens qui travaillent, les salariés à temps complet. Donc, ceux-là, alors, il est très difficile de faire des comparaisons internationales, mais en gros, au niveau européen, la France est un peu en dessous de la moyenne. On doit travailler à peu près. Donc, les salariés à temps plein travaillent à peu près une heure de moins par semaine que les Allemands, par exemple. Mais enfin, il y a des incertitudes. Donc, en gros, on n'est pas très en retard. Là où la France décroche totalement, c'est sur la quantité totale d'heures de travail des personnes en âge de travailler. Tout simplement parce que les jeunes travaillent moins que dans les autres pays, parce qu'il y a moins d'apprentis que, par exemple, en Allemagne. Les personnes de plus de 60 ans ont un taux d'emploi, c'est-à-dire une proportion de ceux qui travaillent, qui est très faible, parce qu'on part plutôt à la retraite que les autres pays. Et puis, on a pratiquement 9% de chômage, qui sont autant de gens qui ne travaillent pas non plus. Donc, la question de la quantité de travail en France, c'est moins la question de ceux qui travaillent que de ceux qui ne travaillent pas.
Donc, pour vous, on part trop tôt à la retraite?
Oui, évidemment. Oui, de toute façon, l'âge de la retraite va augmenter dans les prochaines années.
Ça, c'est une certitude.
Ou alors les pensions. Ou alors
mais
les
ça
pensions.
Va pas être les gilets jaunes, ça va être les gilets vermeils dans la rue.
Mais il faut savoir ce qu'on veut. Si le départ à la retraite n'augmente pas, enfin si l'âge de départ à la retraite n'augmente pas dans quelques années, c'est-à-dire pour les générations futures, ce sera des retraites de misère.
Bon, vous parlez cash, on pose des questions. Cash, les 35 heures, qu'est-ce qu'on en fait?
Mais les 35 heures n'existent plus, d'une certaine manière.
Vous voulez dire qu'elles ont été... elles n'existent plus, les verrous qui limitaient le travail ont disparu au fil des réformes.
Depuis 2005, il y a eu 5 lois qui ont assoupli considérablement les 35 heures, qui fait que les 35 heures peuvent être parfaitement dépassées, y compris dans les petites entreprises, par négociation collective, aussi par décision du chef d'entreprise qui peut imposer des heures supplémentaires. Et donc, en fait, la question n'est pas de pouvoir faire travailler les personnes plus longtemps. Il y a énormément de gens qui ne sont pas aux 35 heures. Les cadres, généralement, ne sont pas aux 35 heures aussi. Ils travaillent beaucoup plus que 35 heures. La question n'est pas là. La question est de savoir comment on paye ces heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une confusion terrible dans le débat public. Il y a deux questions, en fait. Peut-on faire travailler les salariés plus longtemps que 35 heures? La réponse est oui. La loi est extraordinairement déverrouillée. Et les accords, maintenant, se font par entreprise, non plus par branche. Notamment depuis la loi El Khomri de 2016. Donc la question c'est peut-on travailler plus longtemps que 35 heures, la réponse est oui. Et le patron peut décider, ou alors dans certains cas par négociation collective, d'assouplir considérablement. Maintenant, si la question c'est peut-on faire travailler les gens plus longtemps mais pas payer plus? Alors la réponse est non. Et c'est là que le bât blesse, c'est qu'en fait...
Parce que vous aimeriez qu'on puisse faire ça.
Mais c'est pas ce que... Non, pas du tout. Je pense que tout travail mérite salaire. Si vous travaillez plus, vous devez gagner plus. Bon. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, et notamment des petites entreprises, qui voudraient en fait que leurs salariés travaillent plus longtemps, mais pas payer plus. C'est ça la difficulté qu'on a. Mais le débat est très ambigu sur cette question. Et donc, ça fait qu'on a déverrouillé les 35 heures complètement, et pour autant, le nombre d'heures supplémentaires n'augmente pas, parce que voulez-vous, quand vous faites travailler les gens plus longtemps, il faut les payer plus.
Emmanuel Macron a dit vouloir viser le plein emploi en 2025. Alors ça, le climat économique actuel permet d'envisager un retour vraiment au plein emploi? C'est un vœu pieux.
Je pense que personne ne peut prédire ce qui va se passer d'ici 2025. Simplement, on est actuellement un peu en dessous de 9%. Revenir à 5% en 2025, ça fait 4 points de chômage de moins en 6 ans. Beaucoup de pays ont réussi à faire ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui serait extraordinaire.
Alors, donc, on comprend que l'anthème « travailler plus pour gagner plus » revient à la mode, mais afin que tout le monde puisse trouver un emploi, est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire travailler moins pour qu'il y ait du travail pour tout le monde?
Ah oui, alors ça, c'est le mythe du partage du travail.
Pourquoi c'est un mythe?
Parce que ça n'a jamais marché. Non, le travail, plus vous travaillez, plus vous créez de la richesse, et plus vous créez de la richesse, plus vous créez l'emploi. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est un cycle vertueux. Et le partage du travail n'a jamais réussi, parce que partager le travail, ça veut dire aussi partager les revenus. Et ça a été le gros problème de la loi Aubry, c'est qu'il y a eu un malentendu qui est « vous allez travailler moins, mais tout en gagnant autant ». Et ça, c'est pas possible. Et ce qui s'est passé avec Madame Aubry, c'est que c'est les finances publiques qui ont payé la différence. Puisque je rappelle que Madame Aubry a été à l'origine d'allègements de charges gigantesques sur les entreprises pour compenser, justement, cette différence entre le revenu à 35 heures et le revenu à 39 heures. Donc, c'est les finances publiques, en fait, qui ont payé la différence. Donc, si vous partagez le travail, il faut aussi partager les revenus. Donc, c'est l'appauvrissement du pays.
Bertrand Martineau, faut-il augmenter le SMIC ? Est-ce que le SMIC est trop bas aujourd'hui en France ?
Le SMIC, aujourd'hui, il est à un niveau qui est assez correct compte tenu des allègements de charges qui permettent aux entreprises en fait, d'avoir des coûts du travail assez modérés. Il ne faut certainement pas l'augmenter parce que ce qui est important, c'est que c'est la négociation salariale qui doit l'emporter. Si vous augmentez le SMIC, vous tuez la négociation salariale au niveau des bas salaires et vous avez une économie administrée.
Eva Rock ?
D'une façon plus générale, est-ce que vous pensez qu'on assiste à une mutation du monde du travail ? On voit, il y a plus d'indépendants, plus d'auto-entrepreneurs, des travailleurs qui ne se reconnaissent plus d'ailleurs dans le monde de l'entreprise et qui désertent les instances syndicales, sans parler de l'apport du numérique et d'une forme d'ubérisation ?
Alors, c'est quelque chose de très important. Et ça, d'ailleurs, ça renvoie à la question du temps de travail, d'ailleurs. Puisqu'en fait, on se focalise sur ces histoires de 35 heures comme si l'économie, c'était des usines avec des ouvriers à la chaîne, homogènes, travaillant tous sur la même chose, qui fabriquent des boulons. En fait, l'économie moderne, c'est quand même une économie très flexible, notamment sur le temps de travail. Et une des modalités de la flexibilité du temps de travail, c'est pour ça que ces statuts ont autant d'intérêt à la fois pour les employeurs, mais aussi pour les personnes, c'est que tous ces statuts un peu atypiques, notamment les auto-entrepreneurs, tous ceux qui travaillent sur les plateformes électroniques, l'Institut Montaigne vient juste de sortir un rapport sur ce sujet, ils ont une grande flexibilité sur le temps de travail. Et effectivement, c'est une flexibilité qui est très appréciée également des personnes.
Oui, mais qui est très appréciée des chefs d'entreprise, surtout, parce que des personnes, les livreurs Deliveroo et Uber Eats, je ne pense pas qu'ils soient tous
Alors, je ne vais pas citer les marques en question, mais vous savez, la précarité, ce n'est pas le fait des auto-entrepreneurs. La précarité, c'est beaucoup des CDD, des sous-traitants en cascade qui sont des salariés, mais qui sont en fait dans la précarité. Je vous assure que dans ce rapport Montaigne, on a fait vraiment une étude très approfondie en allant voir justement ces personnes, en leur demandant. Ils se sentent vraiment indépendants et ils ont envie d'avoir une flexibilité horaire.
Pour finir sur un point particulièrement optimiste, un Français sur cinq, selon une étude, estime que son emploi est dépourvu de sens et d'utilité. 18% des Français ont le sentiment d'occuper un bullshit job, un job à la con. Est-ce qu'il peut vraiment y avoir des emplois intéressants pour tout le monde ? C'est la question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, on veut tout. Est-ce qu'il y a du travail intéressant pour tout le monde ?
Probablement pas. La question, c'est que quand vous vous sentez mal sur un bullshit job, avec des risques psychosociaux, des risques de burn-out, le burn-out n'est pas lié d'ailleurs souvent à un excès de travail au passage. C'est lié à justement à ce genre de choses.
Au
manque de sens, à des injonctions contradictoires, la souffrance au travail. Donc la question est de savoir si les personnes qui se sentent mal dans leur travail ont la capacité de changer de travail, d'aller chez un autre employeur éventuellement. Et ça, la réponse pour ça, c'est qu'il vaudrait mieux que le chômage soit le plus bas possible pour que justement il y ait beaucoup de mobilité et que les gens qui sont dans ce genre de travail puissent évoluer ailleurs.
Merci beaucoup Bertrand Martineau d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste des questions d'emploi et de travail.
Europe 1. Il est 6h28, Mathieu Noël.
De vous les copains, continue avec le journal de Sophie Tussaud et puis la météo avec beaucoup de nuages et même de la pluie sur la Bretagne et la Corse.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Juste avant le journal de 6h30, on fait un point sur la météo. Une journée encore calme avec beaucoup de nuages, Céline.
Oui, c'est vrai. Un peu plus qu'hier d'ailleurs et dès ce matin sur la partie nord et centre-est du pays avec des brouillards qui seront aussi fréquents. Tout ça va se dissiper dans le courant de la matinée. Le ciel sera pour un temps plutôt dégagé, hein, comme pour la moitié sud avec pas mal de soleil. Mais l'après-midi, un voile nuageux va arriver par l'ouest et va gagner du terrain de la Bretagne au Poitou-Charentes avec quelques gouttes possibles. Peut-être même un coup de tonnerre en fin de journée. Pour le reste du pays, les nuages reviendront dans l'après-midi un petit peu partout. Le ciel sera bien voilé sur une grande moitié ouest, la faute à cette perturbation. Celle qui deviendra également variable sur les Pyrénées, les Alpes du Sud et la Corse avec un petit peu de pluie et un risque d'orage pour la Corse. Le soleil, lui, va bien résister de l'Alsace à la région PACA.
Et côté température ?
Alors, c'est encore frais ce matin, hein, couvrez-vous. En revanche, cet après-midi, ça va rester doux. 15 à 20 degrés pour la moitié nord en moyenne, 18 à 23 pour la moitié sud, mais toujours avec un petit vent un peu frais de nord.
Merci Céline.
Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui, même le 1er mai, se plie en 4 pour vous offrir 2 heures parfaites. Comment atteindre cette perfection, cet admirable dosage d'infos, d'humeur et d'humour ? Vous devez vous poser la question, et bien c'est très simple. Notre secret dans l'équipe, c'est de savoir en permanence nous remettre en cause, et ce jusqu'à la dernière minute. Hier, par exemple, on a réalisé juste avant l'antenne que c'était la journée mondiale du jazz. Très vite, l'idée a germé de modifier la playlist d'Europe 1 pour être au plus près de cette actu jazz.
Et si on changeait un des disques pourris pour mettre un très beau truc? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre?
Armstrong? Un morceau de Kimber Rose? Ou un petit morceau de Norah Jones?
Oh, laisse tomber, laisse tomber.
Finalement, c'était trop compliqué. Bon, à suivre, pour eux, rien n'est compliqué. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous offrent chaque matin un point de vue tranché mais argumenté. Au programme notamment aujourd'hui, panique dans la grande distribution, obligée de se réinventer. Auchan se sépare de pas moins de 21 magasins.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Le journal de 6h30 présenté par Sophie Tussaud. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Trois titres à la une, Sophie.
Un dispositif de sécurité d'une ampleur exceptionnelle à Paris pour les manifestations du 1er mai. 2000 casseurs pourraient être présents dans la capitale. Le soulagement pour les fonderies du Poitou, un sous-traitant de Renault. Les deux usines vont être reprises et 600 emplois sauvés. Et puis la disparition d'Anémone qui nous avait tant fait rire dans le Père Noël est une ordure.
Europe 1.
Ils veulent faire du 1er mai une journée de l'apocalypse à Paris. Entre 1000 et 2000 activistes radicaux pourraient être présents aujourd'hui dans les manifestations. Le défilé est prévu entre Montparnasse et la place d'Italie. Et sur le parcours, les commerçants ont reçu l'ordre de fermer. Anne est fleuriste. Le 1er mai représente un chiffre d'affaires important pour elle. Elle regrette de ne pas pouvoir ouvrir et critique les pouvoirs publics qui l'ont prévenue au dernier moment.
Moi, je suis un peu perplexe et encore je reste polie parce que je ne suis pas du tout contre la liberté de s'exprimer et de manifester. Mais il ne faudrait pas non plus que ce soit au détriment des gens qui essayent de travailler. D'autant plus que le 1er mai est une grosse journée pour les fleuristes. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la façon dont cette crise, si c'en est une, est gérée. Parce que nous avons appris, moi, par SMS, tard lundi, donc, de la préfecture que nous avions interdiction de travailler le 1er mai. Merci beaucoup. Si je l'avais su un petit peu plus tôt la semaine dernière, j'aurais dimensionné mes stocks, par exemple. Parce que là, du coup, tout me reste sur les bras. J'ai 15 cartons de muguet en pot. J'en ai 3 de muguet coupé, qui bien sûr ne partiront pas. Donc, tout ça est très écologique. Ça a été produit, transporté, emballé. Voilà, ça, c'est un des dommages collatéraux de cette désorganisation.
Témoignage recueilli pour Europe 1 par Jean-Jacques Herry. Et pour éviter des violences semblables à celles de l'année dernière, 7400 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale. Les contrôles préventifs ont également commencé dès hier soir. Emmanuel Macron a demandé une réponse extrêmement ferme à l'encontre des casseurs. Fermeté également de la préfecture, selon les informations de Salomé Legrand.
On a rarement vu un préfet aussi guerrier, quelqu'un utiliser autant les métaphores militaires et le vocabulaire offensif. La confidence venue de l'intérieur confirme le changement de stratégie à la préfecture de police de Paris. Contrairement à son prédécesseur qui optait souvent pour laisser faire certaines dégradations tant qu'elles restaient cantonnées au matériel, qu'il n'y avait pas de risque humain, le nouveau préfet assume une logique d'affrontement et les risques qui en découlent. D'après nos informations, les policiers n'ont qu'un objectif aujourd'hui, disperser le Black Bloc dès qu'il se forme, quitte à provoquer une bataille rangée entre forces de l'ordre et militants violents. L'affrontement sur le terrain a été privilégié plutôt que les mesures préventives, comme les interdictions de paraître à Paris ou de manifester, qui avaient été mises en œuvre par exemple le 8 décembre dernier. Les services spécialisés attendent jusqu'à 1500 Black Blocs, dont 300 militants connus, et quelques renforts d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne, dont certains n'attendent que cette occasion d'affronter directement les policiers.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Et le 1er mai, Sophie, c'est également le muguet.
Et la possibilité de le cueillir et de le vendre. Alors qu'est-il permis de faire? Écoutez les explications de Frédéric Guérin de l'Office national de forêt dans le Grand Est.
Alors, il faut bien penser à ne pas prélever les racines, laisser les racines, bien cueillir le brin de muguet. Et puis surtout, juste un bouquet, pas plus. C'est un prélèvement raisonnable. Il faut en laisser pour que la forêt, qu'on puisse retrouver du muguet l'année prochaine en forêt au même endroit. C'est normalement juste toléré pour pouvoir décorer la table du salon, pas pour en revendre. Là, il faut vraiment l'autorisation du propriétaire pour pouvoir récolter les grandes quantités. S'il n'y a pas d'autorisation du propriétaire, eh bien on risque une amende qui peut aller jusqu'à 800 euros.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la saison du muguet cette année?
Alors cette année, avec la météo qu'on a eue, le muguet il est plutôt en retard, il est en train de fleurir. Il y a un mois, on avait beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, on se disait le muguet va être prêt, et puis on a eu un coup de froid derrière, et donc d'ici 15 jours, 3 semaines, il y en aura beaucoup plus. Mais dans tout le quart nord-est, on a effectivement eu un ralentissement de la végétation sur le dernier mois.
Frédéric Guérin de l'Office national de forêt dans le Grand Est, au micro Europe 1 d'Arthur Elmbaché. Le soulagement des salariés des fonderies du Poitou, un sous-traitant de Renault. Grâce à un repreneur britannique, les deux usines près de Poitiers vont pouvoir conserver 600 de leurs 732 employés. La bonne nouvelle a été fêtée lundi autour d'un banquet géant. Notre correspondant dans l'Ouest, François Coulan, était présent près des salariés.
La crise du diesel, comme une épée de Damoclès, pendant 4 mois, des centaines de salariés fabricants culassent et carters de moteurs pour Renault redoutaient le pire. Le sauveur est venu de Grande-Bretagne, plus de 600 emplois conservés, aucun licenciement sec.
Ça va beaucoup mieux là, c'est bon, c'est reparti maintenant, ça soulage. C'est dur, on se pose des questions.
On dort mieux, on est tranquille pour 4 ans, c'est un soulagement.
Renault garantit 4 années de commandes aux fonderies du Poitou qui reviennent de loin, Sébastien Verchère, CGT.
La crainte qu'on avait, c'est de dire, si on n'a pas de repreneur, on est tous au Pôle emploi. Ça représentait, avec les sous-traitants, plus de 3000 salariés sur le carreau. C'était une lutte qui a été dure. On a fait un barbecue géant avec tous les salariés pour fêter ça. Les gens sont très contents. Mais le problème va continuer à se poser parce que quand on entend les constructeurs, d'ici 2 ans, ils disent que le diesel va se casser la figure. On va tout faire pour pas que dans 2 ans, ça recommence.
Le repreneur Liberty House va devoir très vite cibler d'autres débouchés que celui de l'auto, disent les fondeurs, sinon ce sera rebelote dans moins de 4 ans. Un grand survienne, François Coulon, Europe.
À Mulhouse, en revanche, c'est l'inquiétude. L'usine de PSA s'apprête à se séparer d'un millier d'intérimaires à l'automne prochain, conséquence de l'arrêt de la fabrication de la Peugeot 2008. Une décision amplement critiquée par les syndicats PSA ayant enregistré des bénéfices records.
Europe 1, il est 6h37.
Depuis hier, 2 nouvelles têtes sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement, et Mounir Majoubi, ancien secrétaire d'État chargé du numérique, lancés tous les deux dans la course à la mairie de Paris. Ils retrouvent la place qu'ils avaient laissée à leurs suppléants en entrant au gouvernement. Maud Descamps les a suivis dans leur premier pas de député.
Si toutes les questions de logistique n'ont pas encore été réglées, badge d'accès, clé de bureau...
On peut pas avoir accès aujourd'hui à ce moment-là.
Ah si, bien sûr.
L'agenda, lui, est déjà chargé. Il faut se mettre dans le rythme et apprendre de nouveaux codes, reconnaît l'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.
Il y a des règles à intégrer, mais voilà, je vais lire le bréviaire du bon député, m'enquérir auprès de mes collègues du bon comportement à avoir, de à quelle séance il faut être, etc.
Quelques étages au-dessus, un autre ancien visage du gouvernement, Mounir Majoubi, s'installe dans son nouveau bureau d'une petite vingtaine de mètres carrés.
C'est pas une question de taille, on va essayer de le rendre le plus agréable possible. C'est le bureau où on va travailler avec mes collaborateurs. J'ai une particularité avec Benjamin, on vient du gouvernement, donc on est des courroies de transmission.
Mais la promesse de s'impliquer à 100% dans ce nouveau rôle de député résistera-t-elle à la course à la candidature pour la mairie de Paris? Ce n'est pas un sujet, s'offusque presque Benjamin Griveaux.
Est-ce que vous poseriez la question à la maire de Paris de savoir si elle sera vraiment maire de Paris en étant elle-même candidate? Non, la question ne se pose pas.
Quant à Mounir Majoubi, il assure avoir trouvé la formule idéale, député la semaine et candidat en campagne le week-end.
Maud Descamps à l'Assemblée nationale pour Europe 1. Dans l'actualité internationale, les manifestations devraient se poursuivre aujourd'hui au Venezuela. Dans un message vidéo, Juan Guaido appelle ses partisans à rester mobilisés contre le président Maduro. Un appel au lendemain des violents heurts dans les rues de Caracas entre forces de l'ordre et manifestants. 69 personnes ont été blessées. Le champion du monde du 800 mètres était devant la justice hier. Pierre-Ambroise Boss était jugé par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour une violente bagarre en 2017 avec un rugbyman. Stéphane Place a assisté au procès pour Europe 1.
Athlète longiligne, champion du monde du 800 mètres qui déclare plus de 300 000 euros de revenus sur une année, constate le président du tribunal. Et face à lui, un ancien rugbyman du coin, le cou épais, les épaules larges, physique de première ligne aujourd'hui handicapé, touchant une pension mensuelle d'invalidité de 800 euros. Près de 2 ans après cette rixe sur le parking du casino de Gujan-Mestras, ce sont 2 hommes très différents qui se font face dans cette salle d'audience. Pierre-Ambroise Boss maintient avoir reçu une claque, puis être redescendu de sa voiture, une bouteille de bière à la main qu'il nie avoir jetée sur celui qui lui assènera un violent coup de poing avant de le frapper encore au sol.
Ils vont pas me faire avouer quelque chose que je n'ai pas fait et que je n'aurais jamais fait, c'est-à-dire jeter une bière au visage de mon agresseur. Donc j'espère que le tribunal ira en la faveur de notre défense, c'est-à-dire la relaxe. J'essaye consciemment de me dire que aujourd'hui, je suis capable d'être champion olympique et que cette affaire est derrière moi.
Pour la procureure, les deux prévenus ne sont pas dans l'équilibre sur le plateau. Il y a celui qui, incontrôlable comme un animal sauvage, aurait pu tuer un homme à terre et celui dont l'orgueil a été touché. 6 mois de prison avec sursis requis contre l'ex-rugbyman, 500 euros d'amende contre Pierre-Ambroise Boss. Le tribunal rendra sa décision le 28 mai. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Elle était une figure populaire du cinéma français. Anémone, inoubliable, Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, touchante dans Le Grand Chemin qui lui avait valu un César en 1988. L'actrice s'est éteinte hier à l'âge de 68 ans. Le réalisateur Patrice Lecomte rend hommage à une femme barrée qu'il avait notamment dirigée dans le film Ma femme s'appelle Revient.
Anémone, elle était barrée, mais elle n'était pas barrée d'une manière absurde. Elle était largement barrée, mais d'une manière chaleureuse, joyeuse, imaginative, inventive. Et c'est pour ça que je l'aimais beaucoup. D'apprendre aujourd'hui qu'elle est partie, elle aussi. Donc décidément, les mois d'avril sont meurtriers. D'apprendre qu'elle est partie me trouble un peu, parce que je me dis que les grands fous qu'on a aimés sont en train de s'en aller les uns après les autres. Et je sais pas trop quels sont les grands fous qui restent. Anémone, elle était allumée, quoi. Et le fait d'être allumée la rendait lumineuse.
Le réalisateur Patrice Lecomte pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de Sophie Tussaud. Sophie, journaliste rigoureuse au sérieux incontestable et qui, depuis qu'elle remplace David Doucan, découvre médusée l'ambiance potache de notre émission. Elle savait qu'il y avait dans notre émission une touche de fantaisie, mais elle ne pensait quand même pas qu'on allait jusqu'à parodier les interviews de Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, en imitant Roland Giraud dans Papy fait de la résistance.
Je ne sens pas que mon position est fragile, mais je ne sais pas. Je ne suis pas naïf.
Je ne suis pas naïf.
Une volonté de faire, discipline acharnée.
C'est vrai que l'accent, ça fait quand même casse-à-pointe.
Mais oui, c'est le but, Sophie. C'est le principe de notre émission. Allez, on passe à la météo. Céline, oui. Temps calme, mais nuageux. Il y a toujours un bémol avec vous. Vous pouvez pas
je suis désolée, et puis ça ne va pas s'arranger les jours qui viennent. Je vous le dis, il y aura pas mal de pluie, ça ne va pas être terrible. Le soleil est prévu de retour mardi.
Mardi,
c'est la semaine prochaine. Mais exactement. Oh, il y aura là, à partir de demain, c'est plutôt nuage. Bon, il y aura quelques éclaircies, mais de la pluie aussi. Alors, ce matin, en tout cas, sur la moitié nord, le centre-est, on a des brouillards, des nuages. Ça va se dissiper. Ensuite, on aura du soleil, comme sur la moitié sud. Et puis, une perturbation arrive par l'ouest. Elle va porter un voile nuageux dans l'après-midi sur toute la moitié ouest. Un ciel couvert entre la Bretagne et le Poitou-Charentes, avec là quelques gouttes et peut-être même quelques coups de tonnerre en soirée. Pareil pour la Corse. Les températures froides encore, ce matin, 2 à 10 degrés. Cet après-midi, ça grimpe bien 15 à 23 degrés du nord au sud, avec toujours un petit vent de nord un peu frais. Je vous disais que les jours à venir allaient être plutôt mitigés. Mm-hmm. Les températures vont également baisser ce week-end et vont remonter mardi. Je vous le donne en mille avec le soleil.
On n'a jamais autant attendu un mardi. Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, il est parfois difficile de s'y retrouver dans la jungle de l'actu. Heureusement, chaque matin, les trois fantastiques vous ouvrent le chemin. Aujourd'hui, notre expert politique, nous apprend qu'il y a un an, la préfecture de Paris pressentait déjà, dans le cortège du 1er mai, le mouvement des Gilets jaunes. Analyse de Nostradamus à suivre.
Oh. Bon réveil à tous, il est 6h43. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Un 1er mai sous tension à Paris, près de 2000 activistes radicaux pourraient être présents dans le défilé parisien. 7400 policiers et gendarmes sont déployés. Les commerçants présents sur le parcours ont reçu l'ordre de fermer. Les quatre hommes suspectés de projeter un attentat contre les forces de l'ordre ont passé la nuit en prison. Ils ont été mis en examen hier soir par un juge antiterroriste et écroués. Parmi eux, un garçon de 17 ans déjà condamné pour avoir cherché à se rendre en Syrie. Enfin, la disparition d'Anémone, l'actrice qui n'avait pas sa langue dans sa poche, l'inoubliable Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, également césarisée en 1988 pour son rôle dans Le Grand Chemin. Elle avait 68 ans.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
L'heure est venue de retrouver ce qui, même un 1er mai, reste fantastique. Eva Rock pour les médias, Emmanuel Duteil pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Les trois fantastiques qui, chaque matin, vous décryptent l'actu. Pour eux, rien n'est impossible. Qui sait, un jour peut-être, quand on aura 3-4 heures devant nous, Emmanuel Duteil nous expliquera le mécanisme de l'impôt à la source. Moi, personnellement, je pensais avoir compris. Jusqu'à ce que Gérald Darmanin nous le réexplique avant-hier sur Europe 1.
Aujourd'hui, les Français payent leur impôt sur le revenu. Pour l'année 2018-2019, avec l'impôt à la source, c'est toujours un an de décalage, l'impôt sur le revenu. Grâce à l'impôt à la source, à partir de 2020, justement, lorsque le Parlement votera la baisse des 5 milliards d'euros proposée par le président de la République, dès le mois de janvier 2020, Ils auront effectivement la baisse d'impôt sur le revenu promis par le président de la République.
J'ai rien compris. Attends, je peux écouter.
En attendant qu'Emmanuel trouve une explication plus synthétique et surtout moins chiante, on parle politique avec vous, Mickaël Darmon. Plusieurs manifestations sont prévues, on le disait, en cette journée du 1er mai. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un dispositif de police important. Ce matin, vous nous expliquez que les forces de l'ordre ont étudié à la loupe les différents groupes au sein des cortèges. En quoi est-ce important ?
Eh bien, pour comprendre les évolutions politiques dans les sphères de la mouvance contestataire. Hein. Dis-moi à quelle heure se lançaient les pavés et on vous dira qui sont-ils. C'est un fait, le dégagisme n'a pas épargné les défilés. Hein. Depuis les manifestations contre les lois travail, dites loi El Khomri en 2016, on a constaté le début d'une bataille pour prendre le contrôle du cortège de tête. En clair, pour se faire entendre, dès le début, des éléments ultra se sont imposés avec des épisodes violents dès le début de la manifestation, prenant ainsi de court les responsables plus classiques derrière leur banderole avec les mégaphones et les slogans. Pour ces activistes de la manifestation violente et donc médiatisée, c'est un message qu'ils ont voulu envoyer au syndicalisme, à la papa comme ils les appellent, avec merguez et sandwich à la fin du cortège, juste après les camions sonores et les slogans tous ensemble. Les Black Blocs associés à une base syndicale combative ont changé la nature des manifestations et ont pu surprendre les forces de l'ordre, et c'est ce qui s'est passé l'année dernière lors du 1er mai.
Et c'est ce que confirme une note confidentielle destinée aux hautes sphères de la police que vous avez pu consulter, Mickaël. En fait, les prémices des rassemblements des Gilets jaunes ont commencé le 1er mai dernier.
Oui, une analyse prospective qui a circulé au sommet de l'État analysait dès l'année dernière les évolutions nouvelles alors que les cortèges s'apprêtaient à défiler dans tout le pays. Cette note confidentielle identifie un alliage entre militants syndicaux, anonymes en colère et éléments radicaux type Black Bloc. Et ce qui est étonnant également, il y avait des chiffrages précis. Et c'est effectivement ce qui s'est passé le 1er mai 2018. Les violents affrontements et dégradation du côté de la gare d'Austerlitz ont confirmé ces prévisions. Mais comme le reconnaît aujourd'hui en privé un haut responsable de la chaîne de la sécurité, ce jour-là, on avait devant nous le premier cocktail des manifestations des Gilets jaunes, mais on n'a pas poussé plus avant la réflexion. Alors aujourd'hui, un an et une vingtaine d'actes de Gilets jaunes plus tard, eh bien les autorités ont toutes les cartes en main et vont tenter de contenir cette convergence des buts déclarés entre Gilets jaunes et Black Bloc, maintenir la pression sur le pouvoir. Alors le 1er mai dernier en Australie, on s'en souvient, Emmanuel Macron avait lancé à la presse « Je n'ai pas vocation à rester assis sur mon canapé et à suivre les manifestations ». Alors cette année, on a bien compris qu'il a demandé une réponse très ferme, donc on ne sait pas s'il va être sur son canapé, mais on a compris qu'il va surveiller de très près ce 1er mai qui peut donner la couleur politique du printemps.
Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cette analyse politique. On passe à l'économie avec vous Emmanuel Dutheil. On a appris hier qu'Auchan allait fermer 21 sites, dont un hypermarché. Un exemple de plus des difficultés de la grande distribution.
L'hyper est mort, vive l'hyper. Voilà comment on pourrait résumer la situation. Le modèle du grand hypermarché, comme on l'a connu en périphérie des villes, sans charme, à la décoration pour le moins basique, voire douteuse, où l'on trouve tout sous le même toit à des prix quand même plutôt intéressants. Et dépassé, certains magasins aujourd'hui sont vieux, installés dans des zones beaucoup moins dynamiques qu'avant. On ne consomme pas plus également qu'avant. Par exemple, notre consommation de yaourt stagne. Plus largement, les modes de consommation, même si nous en sommes qu'aux prémices, sont aussi beaucoup évolués, avec notamment Amazon qui lamine tout sur son passage. Mais Leclerc, Carrefour ou Auchan le clament haut et fort, non, l'hyper n'est pas mort. Et dans un souffle au moins aussi vigoureux, ils nous disent tous, il faut le réinventer.
Bah oui, mais comment on fait pour le réinventer, Emmanuel ?
Eh bien, tous à peu près font la même analyse. Ils sont trop grands, ces hyper, ils sont trop impersonnels. On ne peut plus tout vendre sous le même toit. Du coup, les distributeurs réduisent fortement, par exemple, la Hi-Fi ou l'électroménager que l'on trouve à bon prix sur Internet. Idem pour l'habillement, qui ne fonctionne plus du tout dans les hyper. Carrefour arrête aussi, par exemple, la bijouterie. À l'inverse, il mise sur les marques maison. Chez Auchan, on va miser, par exemple, sur Decathlon ou Leroy Merlin. On pourra trouver des corners dans les hypermarchés. Casino, lui, mise sur Cdiscount. On va trouver là aussi des corners dans les grands magasins Casino. Et surtout, tous misent sur l'alimentaire, alors le bio bien sûr, mais aussi des espaces de restauration. Bref, ils veulent que ce soit un petit peu plus sympa.
Est-ce que tout ça va avoir un impact sur les emplois ?
C'est déjà le cas. Plan social chez Carrefour en cours de négociation. Près de 800 postes potentiellement en danger chez Auchan après la vente de ces 21 sites. Mais là encore, pardonnez-moi d'être l'oiseau de mauvais augure, surtout un 1er mai de si bon matin. Mais ce n'est que le début. Un ministre me disait récemment, le plan social à venir dans la grande distribution, c'est l'un de mes pires cauchemars, car au-delà des ventes de magasins, c'est toute la façon de faire du commerce qui va être repensée. On va avoir là, demain, des chariots intelligents qui feront que l'on ne passera plus en caisse. On va avoir des robots qui remplaceront tous les magasiniers. Ce secteur de la distribution est à l'aube d'un bouleversement majeur.
Mais enfin, Emmanuel, il faudra bien continuer à faire nos courses. Que vous disait votre ami ministre là-dessus?
Alors, il n'y avait pas beaucoup d'avis là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il faisait beaucoup lui-même ses courses. Mais bien sûr qu'on va continuer à faire nos courses. Et on le voit, de nouveaux modes émergent ou reviennent. La proximité est en plein boom. Internet explose. Casino en est bien conscient. Il vient d'élargir son partenariat avec Amazon. On va trouver un des produits Casino sur le site. Alors, pour certains, Casino laisse entrer le loup dans la bergerie. Mais tous, au moins, sont d'accord sur un point. Dans tous les cas, on n'a plus le choix.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Qu'est-ce qu'on regarde, au lieu de pouffer comme ça, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
C'est extrêmement intéressant. Mes deux programmes ce soir, version intello ou comédie familiale. Pour la culture, et en l'occurrence la culture littéraire, c'est sur France 5 avec un nouveau numéro de La Grande Librairie présenté par François Bunel. Sur le plateau, trois grands écrivains, Anke Bilal, Fred Vargas et Marc Duguin. Mais je vous en parle aussi parce qu'au cours de l'émission, vous allez découvrir un entretien mené par François Bunel avec l'auteur américain Bret Easton Ellis qui publie son nouveau livre, White, extrait de cette conversation et de l'avantage à manier l'ironie.
L'ironie, c'est un style, c'est un point de vue, c'est une façon de voir le monde. Je me dis souvent que ça serait bien qu'il y ait un peu plus d'ironie dans le monde. Je me souviens qu'au moment du 11 septembre 2001, quelqu'un a dit « l'ironie est morte ». C'était peut-être vrai pour un temps, mais j'aimerais voir un peu plus d'ironie dans cette culture. Ça lui donnerait un peu plus de légèreté. Tout est tellement sans condition. Enragé. Tout le monde est si prompt à réduire quelqu'un au silence ou à le lyncher. Peut-être que l'ironie est la meilleure réponse aux divisions et à la colère.
La Grande Librairie ou la télévision qui permet de se sentir un peu plus intelligent quand on écran, quand on éteint son écran. Si vous êtes en famille, et pas l'inverse, si vous êtes en famille, vous pouvez toujours vous brancher sur France 4 pour une comédie de 2009, oui. 2009, dont des pans entiers de dialogue sont devenus cultes. Neuilly sa mère, ou quand Samy quitte sa cité de la banlieue de Chalon pour s'installer chez sa tante à Neuilly-sur-Seine. Et pourtant, il aime tellement sa cité.
La cité, quand on est gamin, il n'y a pas mieux. On a tout ce qu'il faut pour rigoler. Des halls d'immeubles, des parkings, des marches d'escalier, même des écoles.
Alors, je repose la question. Quelles sont les deux grandes épidémies qui ont ravagé l'Europe à la fin du Moyen-Âge?
Moi, monsieur.
Youssef, oui.
Le chômage et la misère.
Changement d'ambiance, vous allez le comprendre quand Samy arrive chez les bourgeois et surtout quand il va découvrir la chambre qu'il va devoir partager avec son cousin Charles. Poster de Chirac et Sarkozy au mur. Et puis écoutez bien, ambiance sonore.
Là-bas au fond, c'est ton lit. Tu peux mettre tes habits sur ces étagères. Et puis ce petit bureau, c'est pour faire tes devoirs. Ça va aller? Si t'as besoin de moi, je suis à la bibliothèque au rez-de-chaussée. Bonne installation, chérie.
Et oui, Carla Bruni en fond sonore. Alors, certes, Neuilly sa mère, c'est un peu caricatural, mais les jeunes acteurs s'affichent sans complexe aux côtés de Josiane Balasco, François-Xavier de Maison, Denis Podalydès ou encore Valérie Lemercier. Certains dialogues nous rappellent ceux de la crise de Colin Serrault. C'est à voir en famille, c'est sur France 4 à 21h.
Merci beaucoup, Eva Rock, pour ces conseils éclectiques. Merci, Emmanuel Dutheil, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprêtent à passer la main. Or, en ce 1er mai, sachant que légalement, je devrais en toute logique être peinard au fond de mon lit, que je ne suis ici que par amitié pour Europe 1, je m'étais dit, bon déjà c'est sympa de ma part de venir, je vais pas en plus réécouter toute la matière d'hier pour en faire un débrief. Puis finalement, Céline, vous savez, les gens aiment tellement l'humour. Oui.
Ça dépend de vos goûts après. Hein. Moi, je suis plus merguez.
Bon, non, mais n'empêche, t'empêche Céline, on peut aimer la merguez et le débrief. Apportez vos saucisses, il y a déjà Pierre de Villeneuve sur le grill. À tout de suite sur Europe 1.
Bon réveil à tous, il est 6h54. Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains, spécial fête du Muguet s'achève. L'heure de céder la place à celui qui présente la matinale d'Europe 1 en l'absence de Nico Sélégas et qui, lorsqu'il a découvert que je bossais un 1er mai sans être payé double, s'est exclamé
« Non !» Ah, tu te fais complètement baiser, là.
Oh, baiser, le mot est un peu fort, Vilno. Vous savez, moi, c'est l'amour du public qui m'anime. Je vis pour lui, mon cher public. Bonjour, Pierre de Vilno. Et je sais que vous aussi, vous êtes ravis de vous être levé à 3h du mat un 1er mai pendant que toute la France roupille. Et alors que techniquement, on ne sait même pas si les gens nous écoutent. Non, comme tout le monde présent dans ce studio, en arrivant au boulot ce matin, vous vous êtes dit...
Qu'est-ce que je fais là, moi?
Je ne sais pas, Pierre, je ne sais pas, mais vous y êtes. Alors, perdu pour perdu, donnez le meilleur de vous-même. Soyez notamment votre ouverture. Hein. Oui. Hier, débordé en quelque sorte par votre propre enthousiasme, vous l'avez un poil foiré.
Merci de nous avoir choisis. Bon réveil si vous ouvrez l'heure.
Bon réveil si vous ouvrez l'heure. Des efforts sont attendus également de la part de Céline Dacosta, qui est priée de bien vouloir faire l'effort, ne serait-ce que par courtoisie, de mémoriser le nom du remplaçant de Nikos Aliagas. C'est Pierre de Villeneau, oui, Céline.
Sais. L'innovation, c'est avec Anis Mbida, Nikos. C'est pas écrit en plus. Je fais tellement machinalement.
Bon, après tout, c'est pas si grave. Hein. Bon, c'est les vacances. Les vacances. Faudrait voir à pas trop se mettre la pression non plus. C'est vrai qu'avec ce soleil printanier, hier, on se serait bien vu en terrasse à déguster quelques huîtres. Pas vrai, mon Pierrot ?
Et puis, dans une petite minute, c'est la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Ce matin, le mystère de l'huître géante en Vendée.
1,3 kg.
Moi, je trouve que les meilleures, c'est les petites. Les numéros 2, tout ça, je les mange pas. Elles sont trop laiteuses, je trouve. Moi, je prends des 5, maximum des 3.
Oui, on s'en fout. Mais c'est vrai que les vacances, non, c'est les vacances. On a envie d'infos légères, vous avez raison, Pierre. De mystères policiers, comme un tableau de Léonard de Vinci qui disparaît. Oui. Et attention, parce que vous allez voir qu'en période de vacances scolaires à Europe 1, il n'y a pas que les tableaux qui disparaissent, les salariés aussi. Ouais. On est obligé de lancer des stagiaires sur le terrain.
À deux jours des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, personne ne sait où se trouve son tableau, le Salvator Mundi.
Les hypothèses ne manquent pas, Sébastien Rouxel.
Mais qui est Sébastien Rouxel ?
Aucune idée.
Bah, j'espère qu'il est déclaré. Hein. Qu'on n'aura pas de problème avec les RH. Enfin, lui, il est déclaré depuis 35 ans. Si jamais un jour le groupe Lagardère veut se séparer de lui sans se retrouver au prud'homme, Arnaud devra vendre Paris Match, le JDD et tous les points presse relais H. Je veux bien sûr parler de l'inoxydable Laurent Cabrol. Lolo, qui dans ce monde de fous, où la technologie évolue si vite, où le transhumanisme est à nos portes, fait vraiment figure de vieux sage. Hier encore, alors que les genoux s'extasiaient devant les nouvelles applications des smartphones bientôt capables de réaliser certains examens médicaux, Obi-Wan Cabrol, le Jedi ronchon, émettait une réserve de taille.
C'est inédit, on va bientôt pouvoir utiliser son smartphone pour faire des examens médicaux.
Oui, et on verra qu'on peut l'utiliser pour dépister des maladies.
L'air préoccupé, Laurent.
Bon, pour moi, tant que le portable ne saura pas faire la béchamel, ça ira pas.
De la sagesse de Lolo, nous passer, nous ne pourrions pas. Que la force soit avec vous, Padawan Villeneuve.
Merci, Mathieu Noël, à demain.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.